En étudiant l'histoire du christianisme ou de la chrétienté, la chrétienté c'est le terme qu'on utilise pour désigner tous ceux qui se réclament de Christ, alors c'est de véritables chrétiens parfois, mais ce sont aussi les religions de masse, les religions de multitude, ceux qui soi-disant baptisent des enfants à la naissance pour qu'ils deviennent enfants de Dieu. Et puis il y a les sectes, etc. Donc en étudiant l'histoire de la chrétienté, je me suis rendu compte que beaucoup de groupes religieux qui ont pignon sur rue, ici, en France et ailleurs, eh bien, dérivent leur enseignement de la Bible. Ils prennent dans les Saintes Écritures ce qu'ils veulent, et puis vont prêcher sur ces choses-là, et puis affirmer d'autres choses qui sont fausses, qui sont des dogmes engendrés et créés par les hommes. Par contre, les églises bibliques, les églises baptistes, font reposer leur enseignement sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, point dans la ligne. Il n'y a pas de dogme. Il n'y a pas d'idées humaines qui sont introduites dans ce que nous croyons. Si vous lisez la confession de foi de cette église, vous apercevrez que tout est circonstancié, tout est expliqué, tout est étayé avec des versets bibliques, avec des passages bibliques qui ont un rapport avec ce qui est affirmé. Et c'est très important de croire en la vérité biblique. Mais très important. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans un texte de Matthieu. J'ai choisi Matthieu parce que pendant chaque fois que j'étais chez Jérémie et sa famille, ils avaient des petites méditations le soir et ils étaient dans l'évangile de Luc, mais dans des passages qui ont suscité chez moi une réflexion aussi. Mais moi, je prends le passage parallèle dans les synoptiques, il y a Matthieu, Marc, Luc. Donc, je prends Matthieu, chapitre 22, et nous lirons les versets 23 jusqu'à 33. Alors, je suis très honoré d'être parmi vous. Nous prions pour vous chaque jour, Vernice et moi. Vous êtes dans notre cœur. Et ce n'est pas simplement parce que Jérémie, mon fils, se trouve ici, ni Carré, mon ami, se trouve ici. C'est parce que nous avons à cœur de voir une église biblique, baptiste, vibrante, fervente, se développer ici et être une lumière dans cette région. Que beaucoup d'âmes soient touchées par votre témoignage. Alors, avec moi, Matthieu 22, chapitre 22, versets 23 à 33. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous sept frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au septième. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Alors chaque année passée à étudier et à méditer la Bible a renforcé ma foi confiance dans le message divin qui nous a été transmis donc intégralement dans les Saintes Écritures. Je suis convaincu que la Bible est sans erreur, non seulement sur le plan doctrinal et moral, mais qu'elle est tout aussi exacte, elle est tout aussi digne de confiance dans les vérités d'ordre historique, géographique, psychologique, scientifique, culturel. Sans erreur, seul Dieu Seul Dieu pouvait nous communiquer un tel livre, et il l'a fait par inspiration de l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas que je casse le matériel. Donc le Seigneur Jésus affirmait haut et fort que pas un seul mot, pas même un modeste trait de lettre ne s'effacerait des Saintes Écritures jusqu'à ce que tout soit accompli. Paradoxalement, vous avez les négateurs de toutes sortes, les négateurs de la Bible, ils sont légion aujourd'hui, ils passent à la télé, je les entends parfois, je les écoute parfois avec beaucoup de réticence, ils se pavanent au milieu d'institutions prestigieuses, ils se gargarisent dans les soi-disant arts, on les entend même s'exprimer dans les sphères religieuses. Ils se gaussent sans vergogne à propos des affirmations présentées par le Dieu de la Bible. Pour faire taire la vérité, ils n'hésitent pas à tendre de sordides pièges, notamment aux fidèles. Or, en ce qui nous concerne, pour adéquatement réfuter les erreurs doctrinales et les erreurs morales, il y a beaucoup d'erreurs morales de nos jours, vous avez pu vous en rendre compte, hein, le monde est en train de dévier à vitesse grand V vers je ne sais quoi. Eh bien, pour adéquatement réfuter ces erreurs doctrinales et morales, et pour expliquer les saintes doctrines divines, il faudra que vous donniez les moyens de bien comprendre les saintes doctrines, la parole de Dieu. Il faudra que vous et moi ayons de solides convictions qu'aucune erreur ne s'est glissée dans la parole de Dieu. Donc, mes amis, mes frères, mes sœurs, reposez votre foi confiance dans l'intégrité de la parole. La parole est inhérente, elle est sans erreur, que Dieu nous l'a intégralement transmise pour notre salut et pour notre sanctification. Dieu n'a pas changé. Dans l'Ancien Testament, il voulait la sanctification du peuple d'Israël. Aujourd'hui encore, Dieu est saint et il veut notre sanctification. Et notre sanctification sera pour nous, je vous le garantis, un gage de vie gratifiante, de vie heureuse, de vie dans la paix et la joie du Seigneur. Alors le Seigneur Jésus, imprégné de la véracité des Saintes Écritures, s'en est toujours servi pour triompher des assauts des négateurs de son époque. Alors, ici, nous avons les Sadducéens. C'était un groupe très particulier. Il y avait plusieurs sectes dans le judaïsme. Il y avait des pharisiens, il y avait des Sadducéens. Et il y avait un parti politico-religieux qui s'appelait les Hérodiens. Et un groupe qui n'apparaît même pas dans les Écritures et qui s'appelait les Essènes ou Esséniens. Mais le Seigneur Jésus s'est toujours servi de la parole de Dieu pour triompher des attaques adressées par les négateurs, par les critiques de Dieu, les critiques de la vérité. Et plus que quiconque d'entre nous, hein, je peux vous le garantir, Jésus a dû surmonter les assauts perfides des forces du mal. Lors de son passage terrestre, il a vécu 33-34 ans parmi nous, Jésus a eu sa dose de détracteurs et de complotistes en tout genre. J'ajouterais même que les forces du mensonge et de l'erreur se sont conjuguées et se sont multipliées à son époque. Il y a beaucoup d'activités maléfiques, beaucoup d'activités que l'on peut lier à l'adversaire, hein, à Satan à l'époque de Jésus-Christ, parce qu'il s'acharne à détruire la vérité que Jésus-Christ est en train de présenter. Et ils ont tenté par tous les moyens de discréditer le Seigneur auprès du peuple et de le déstabiliser, lui, sur le plan personnel. Hein. Ils ont cherché à saper son ministère, à détruire son ministère dès le début. Or, et gloire en soit rendue à Dieu, chaque fois, c'est par la parole, c'est la sainte parole qui en est toujours sortie victorieuse. Même le tentateur, vous vous souvenez des tentations de Jésus, Matthieu chapitre 4, La malin a tourné Kazakh devant le faisceau d'arguments bibliques présentés par Jésus. Chaque fois que Satan venait l'attaquer, l'agresser sur un point, Jésus répliquait par un passage des Saintes Écritures en disant « Mais Dieu a dit, les Écritures disent ». Au tout début de son ministère, là, on est dans Matthieu chapitre 4, lors de cette fameuse tentation du désert, Jésus a utilisé la parole de Dieu pour repousser l'adversité. Toutefois, comme Satan s'avoue rarement vaincu, c'est pas le genre à travailler 35 heures et s'arrêter, hein, il s'avoue vaincu, et pour assaillir de plus belle le Seigneur, il s'est prévalu de ce que j'appelle toutes les forces du mal possibles et imaginables, y compris les politiciens, alors comme aujourd'hui, y compris les dignitaires religieux, aujourd'hui comme autrefois. Tout jeune chrétien, j'ai lu en anglais un admirable ouvrage écrit par un formidable auteur chrétien du nom de C.S. Lewis. Ce livre existe d'ailleurs en français, et je vous en recommande la lecture. C'est « Tactique du diable ». Je ne sais pas si vous avez lu ça. En anglais, c'est « Screwtape Letters ». C.S. Lewis. Et il est disponible à la Maison de la Bible. C'est un ouvrage remarquable parce qu'il explique les stratagèmes, les moyens que l'adversaire utilise pour attaquer les chrétiens et le christianisme. Alors, représentons-nous la toile d'araignée qui a été conçue par le malin. Le malin, c'est intelligent ou mal, n'est-ce pas? N'appelez pas votre gosse malin. Ne dites pas que votre gosse est malin, parce que ce serait dire qu'il est intelligent à faire le mal. Dites qu'il est intelligent, dites qu'il est brillant, dites qu'il est comme vous, mais ne dites pas qu'il est malin. Représentez-vous la toile d'araignée conçue par le père du mensonge, parce qu'il est le père du mensonge, la Bible le dit. Jésus le dit. Le Seigneur dut non seulement faire face à des représentants politiques de la nation juive, à l'époque c'était les Hérodiens, hein, ils étaient affiliés à Hérode, qui était lui-même en cheville avec l'Empire romain, hein. Et puis, mais aussi il dut faire face à des notables exerçant le pouvoir religieux. Vous avez entendu parler du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était une espèce de parlement, hein, un parlement pour les questions religieuses, les questions morales en Israël. Eh bien, il y avait le souverain sacrificateur qui en était la tête. Et puis, il y avait la secte des pharisiens, il y avait les scribes qui étaient des docteurs de la loi, qui recopiaient la loi, qui enseignaient la loi. Et il y avait ces fameux sadducéens. Et séparément, presque à la queue-leu-leu, parfois même de concert, les uns et les autres se sont acharnés à trouver des pièges, à concevoir des traquenards pour faire tomber le Messie. Alors, avant l'échange que nous avons lu ici dans Matthieu chapitre 22, les versets 23 à 33, ce sont les Hérodiens, tu en avais parlé un soir, ce sont les Hérodiens, donc des proches du pouvoir romain, qui, le même jour, s'efforcèrent de piéger notre Seigneur en lui demandant s'il était légitime de payer le tribut à César. Les Hérodiens s'imaginaient que d'une manière ou d'une autre, Jésus se mettrait à dos au moins une partie de la population. Soit les collaborateurs pro-romains, et il y en avait, soit, de l'autre côté, les zélotes juifs, les ultranationalistes, qui n'hésitaient pas à utiliser le couteau, hein, pour se débarrasser des Romains. C'était les sicaires les plus extrémistes. Et vous savez, n'est-ce pas, comment Jésus a confondu les Hérodiens à cette occasion. À l'aide d'une pièce de monnaie à l'effigie de l'empereur, il dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est ce que nous devons faire nous aussi. Rendre à César ce qui est à César, donc on paye le tribut, on paye les impôts, et puis on rend à Dieu ce qui est à Dieu. Et voilà les Hérodiens ramenés, ainsi que tous les autres, à leurs responsabilités, respectivement vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de Dieu. Alors s'approchèrent les Sadducéens. Il faut que je me souvienne qu'il y a une chaise derrière moi. Non, je ne vais rien bouger. Sinon, tout va s'effondrer là. Alors s'approchèrent les Sadducéens. Alors les Sadducéens, c'était des dignitaires religieux. Et pensaient avoir un stratagème imparable. C'est le récit qui se trouve dans le texte que nous avons lu tantôt, hein, dans Matthieu chapitre 22, versets 23 à 33. Jésus déjoua leur piège comme celui des autres. Comment ? Eh bien, encore une fois, à l'aide de la parole de Dieu qu'ils savaient sans erreur. La discussion qui eut lieu entre les Sadducéens et Jésus révèle la sournoiserie de ces scribes, docteurs de la loi, de ces sacrificateurs, mais surtout révèle l'absolue confiance du Seigneur en l'inhérence des saintes écritures bibliques revêtues qu'elles sont, il est vrai, de l'autorité divine jusque dans leurs moindres détails. La parole de Dieu a été insufflée par le Saint-Esprit. Insufflée. Le Saint-Esprit a transmis aux différents auteurs sacrés cette parole que nous avons entre les mains et qui nous vient de Dieu. Dans l'Ancien Testament, tu relevais la chose, là, et Dieu parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse. Dans l'Ancien Testament, plus de 3000 fois, il y a parole de l'Éternel. 3000 fois dans l'Ancien Testament seulement. Alors, Jésus déjoua donc leur piège, comme celui des autres, à l'aide de la parole de Dieu qu'ils savaient sans erreur. Et la discussion donc révèle cette confiance que Jésus avait dans la parole de Dieu. Les Sadducéens étaient membres de l'une des sectes majeures du judaïsme. C'était des gens qui faisaient partie de l'élite, hein, la haute bourgeoisie. Ils ne croyaient qu'à la seule autorité du Pentateuque. Le Pentateuque, ça veut dire quoi? Les cinq premiers livres de la Bible, les cinq livres de Moïse. C'est ça le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Eh bien, ils ne croyaient qu'en l'autorité du Pentateuque. Et de manière surprenante, ils niaient l'existence des anges. C'est étrange, parce que les anges sont mentionnés dans ces textes. Et ils disaient ne pas croire à la résurrection des morts, parce que d'après eux, Moïse n'avait jamais enseigné de telles choses. Or, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Et de manière outrecuidante, et Matthieu 22, dans leur confrontation avec le Seigneur, les Sadducéens vont donner libre cours à leur incrédulité à propos de la résurrection. Ils s'imaginèrent coincer Jésus en inventant, parce que pour moi c'est une invention, je crois qu'il n'y a rien de factuel dans ce qu'il présente là. En inventant un cas absolument invraisemblable d'une femme qui aurait été mariée à 7 frères différents de manière successive. Ils sont tous morts. Moi, je m'inquiéterais. Hein. Si j'étais le 4e, je dirais, oh là là, qu'est-ce qui est arrivé aux 3 premiers? Je m'inquiéterais. Mais non. Il se base, évidemment, il juxtapose ça avec une célèbre loi du Pentateuque, celle du Lévirat. Alors, je m'explique. D'abord, le terme vient du latin, ça signifie mariage par le frère du mari. Et cette loi figurait effectivement dans le Deutéronome au chapitre 25, versets 23 et 28, et enjoignait à un homme juif d'épouser la veuve de son frère, laisser sans enfant, s'il le pouvait, s'il le voulait, afin d'en perpétuer le nom, la descendance et le patrimoine. Dans le cas contraire, la responsabilité incombait à son plus proche parent, comme l'illustre le petit récit, et j'ai failli prêcher sur ce texte-là, de Ruth, hein, Ruth et Boaz. Boaz était le plus proche parent, et un des parents proches, et il a fait le rachat, il a pris Ruth comme épouse. Cela fonctionnait ainsi sous la loi mosaïque. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus court. Hein. Et c'est sur la toile de fond du Lévirat que les Sadducéens présentent comme un fait avéré, ce scénario rocambolesque de sept frères qui épousent successivement la même femme, le premier se marie et meurt sans enfant, successivement chacun des six frères meurt également, épouse la veuve et meurt. Finalement la femme meurt, elle aussi, et les Sadducéens se disent « Oh là là, on va poser la question à Jésus, on va voir comment il va s'en sortir là, on va le piéger hein ». Ils ont souvent cherché à le piéger, la Bible le dit. Ils cherchaient à le piéger, ils cherchaient un moyen de le faire tomber. Et ils se disent, avec un sourire en coin, là, « Oh Jésus, à la résurrection, duquel des sept sera-t-elle donc la femme ?» On va la couper en sept, hein, j'espère. Non, quand même pas. Et sans hésitation, Jésus le reproche, vous le voyez vous-même dans le texte, il leur reproche d'être dans l'erreur. L'erreur. Vous trompez complètement. Et de ne pas comprendre les Écritures. Ça va de pair. Quand on est dans l'erreur, on ne comprend plus les Écritures. Et la puissance de Dieu. Et Christ examine leurs questions et la juge totalement hors de propos. Verset 30. Verset 30. Puisqu'à la résurrection, dit-il, nul ne se mariera. On ne se mariera plus. Les hommes seront semblables aux anges qui ne se marient pas. Les anges, il faut le savoir, constituent un ordre et non pas une race. Nous sommes une race humaine. Nous nous perpétuons. Un homme et une femme se perpétuent et ont des enfants. Mais les anges sont des êtres qui ont été créés un par un, individuellement. Et donc, il ne leur est donc pas nécessaire de procréer des bébés anges. Et le nombre des anges est fixé à tout jamais depuis leur création par Dieu. Certes, certains sont restés saints et sont avec le Seigneur, et d'autres ont chuté et sont devenus des esprits mauvais. Mais il n'y a pas de mariage chez les anges. De même, dit Jésus, dans la vie éternelle à venir, les êtres humains ne se marieront plus, puisqu'il ne sera plus nécessaire de procréer d'enfants pour perpétuer la race humaine. Alors attention, ne vous méprenez pas, le Christ ne dit pas que les hommes deviendraient des anges. Certaines épouses souhaiteraient qu'ils le soient. Mais simplement, qu'étant comme eux, comme les anges, ils ne procréeront plus. Cela étant évident, il devient inutile de répondre à la question des Sadducéens. Elle ne présente plus aucune espèce d'intérêt. Je le rappelle, la loi du Lévirat avait été promulguée pour susciter une postérité au peuple d'Israël, au mari défunt, et perpétuer ainsi son nom. Au ciel, cette disposition n'aura plus lieu d'être, d'où l'inutilité de la question. La deuxième leçon majeure que je vois est... Oui, je regarde le temps aussi. La deuxième leçon majeure à tirer de tout cela, le Seigneur utilise donc l'inhérence de la Bible pour confondre les incrédules de la véracité de la résurrection, doctrine à laquelle s'attaquaient les Sadducéens. Je trouve que parfois les chrétiens se contentent d'être apologétiques. Ils vont défendre leur foi. C'est bien de savoir défendre ses convictions bibliques, surtout quand elles sont sur la sellette, elles sont menacées. Mais c'est encore mieux de pouvoir présenter les vérités bibliques dans un ensemble doctrinal cohérent, crédible, pour convaincre les âmes de l'authenticité des doctrines de la foi chrétienne. Je crois que c'est ce que vous recevrez en venant, en fréquentant assidûment les réunions ici. Vous allez recevoir la parole de Dieu et votre compréhension des Écritures va s'étoffer. Mais aussi en lisant la Bible méthodiquement. Je crois comprendre que plusieurs d'entre vous ont un programme de lecture puisque vous êtes sensiblement tous dans le Lévitique. Hein ? Donc, ceux qui sont convaincus de l'inhérence de la Bible n'hésitent jamais à se servir de la parole de Dieu pour enseigner. Bon, je vais les appeler par leur nom, hein, les mal appris. J'utilise le terme dans son sens premier. Mal appris, ils ont mal appris. On leur a inculqué des dogmes, on leur a inculqué des fausses religions, des philosophies. Ouais. Ils ont été mal appris. C'est pas des voyous. On appelle parfois les un gamin turbulent, elle mal appris. Non. Réservons cela à ceux qui n'ont pas bien appris des choses. Donc, pour enseigner les mal appris et les ignorants. Comme si la magistrale réfutation de l'hypothèse des Sadducéens n'avait été suffisante pour convaincre les Sadducéens d'erreur, d'ignorance et de manque d'à-propos, le Seigneur poursuit son ministère en les instruisant. Vous avez remarqué cela ? Il ne se contente pas simplement de dire « vous êtes dans l'erreur ». Non, il va les instruire. Et il les instruit dans la saine doctrine, à partir d'un passage du Pentateuch. À partir d'un passage du Pentateuch, celui d'Exode chapitre 3, verset 6, que les Sadducéens, répétons-le, considéraient comme revêtus d'une pleine autorité. Ils prétendaient croire dans le Pentateuch. Et la leçon du Seigneur est fort simple. Contrairement à ce que vous, Sadducéens, croyez, même votre petite Bible partielle de Pentateuch là, enseigne qu'il y a une vie après la mort. La mort n'est pas la fin de tout, comme vous l'enseignez à tort. Soit dit en passant, quand je témoigne à des personnes d'origine juive, et il y en a, il y en avait en Lorraine, il y en avait beaucoup en Lorraine, où j'étais dans mon premier ministère. Je m'efforce le plus possible d'évangéliser à partir de passages pertinents de l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de passages dans l'Ancien Testament qui vont suffire parfois à présenter le Messie, à présenter le salut par le Messie, il est mort pour nos péchés, etc. Donc, c'est pour eux une base familière et acceptable. Alors, je suis particulièrement admiratif quand je vois avec quelle sagesse le Seigneur amène les Sadducéens à réexaminer leur compréhension du Pentateuch. Reconnaissons-le, le Seigneur argumente ici de façon tout à fait sophistiquée. Je suis sûr que peu d'entre nous auraient choisi Exode chapitre 3 pour enseigner la doctrine d'une vie après la mort. Or, le Seigneur l'a fait, et je le répète, avec pour seule base les livres de Moïse, afin de confondre, et de confondre irrémédiablement ces Sadducéens. Relevons à nouveau que Jésus-Christ appuie tout son raisonnement sur la parole écrite. Sur la parole de Dieu. Il ne dit pas « Oh, moi, je sais que... » et nous dit quelque chose de nouveau. Non, il aurait pu le faire, puisqu'il est... Il a apporté des révélations de la part de son Père. Non, là, il reprend un texte connu des Sadducéens dans l'Ancien Testament et il le fait sur la base des mots précis et pas sur des conceptions générales. Chaque mot de la Bible a son importance. Chaque mot de la Bible a son importance. Je m'explique. Jésus se sert de la manière dont Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent. C'est ça le passage dans Exode 3, 6. Dieu se présente à Moïse. Moïse lui dit, si on me demande qui tu es, qu'est-ce que je leur raconte là, aux Juifs, là, à Israël, en Égypte. Tu dis, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je suis celui qui suit. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pour le Seigneur, cette déclaration démontre en effet que Dieu est le Dieu des vivants. Autrement dit, qu'Abraham, Isaac et Jacob vivaient, quoique morts physiquement depuis longtemps. Moïse, c'est 1400 et des poussières avant Jésus-Christ, et Abraham, c'est 2000, c'est 600 ans auparavant. Et donc, en quoi me demanderez-vous la désignation de Dieu comme le Dieu des patriarches justifie-t-elle telle la doctrine d'une vie après la mort. Bien, par l'emploi du présent, indicatif présent, je suis. Abraham, Isaac et Jacob étaient morts depuis des siècles quand Dieu s'est révélé de la sorte à Moïse. Et notez-le bien, l'Éternel en Exode 3 affirme être leur Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et donc, au moment où il parlait à Moïse dans le buisson ardent. Mes amis, Dieu n'aurait pas pu s'exprimer de la sorte si Abraham, Isaac et Jacob, une fois morts, avaient totalement cessé d'exister. L'Éternel ne pouvait pas s'exprimer ainsi, ne pouvait s'exprimer ainsi que dans la mesure où, contrairement à la fausse conception des Sadducéens, la mort ne constituait nullement le point final de l'existence, mais une transition vers l'éternité. Je ne vais pas vous faire un cours de grammaire, il va de soi que seule une question de temps différencie « je suis » de « j'étais ». Dans son argumentation, le Seigneur attache donc une très très grande importance à ce que d'autres auraient pu considérer à tort comme un détail. Ah ben, c'est pas un détail. Indubitablement, le Seigneur établit ici la preuve de la résurrection par l'emploi d'un simple verbe au présent. Je le répète, dans la Bible, chaque mot est important, ayant été inspiré, insufflé par l'Esprit de Dieu. Jésus dit « je suis », Dieu dit « je suis le Dieu », « je suis le Dieu d'Abraham ». Il ne dit pas « j'ai été le Dieu d'Abraham lorsqu'il était sur terre ». J'ai été le Dieu de Jacob, j'ai été le Dieu d'Isaac. Non ? Alors, je vais essayer d'illustrer cela, l'importance de ce point. Alors, mon illustration n'est pas toujours tout à fait ce que je voudrais, mais mon ministère m'amène parfois dans l'itinérance, c'est-à-dire que je voyage, je suis en France, je suis ailleurs. J'étais en Hollande, j'étais en Allemagne, j'étais en Tchécoslovaquie, en République tchèque, j'étais aux États-Unis, etc., en Israël, et j'ai prêché la parole. Et donc, je suis donc dans bien des villes et bien des pays. Je suis alors régulièrement invité à prendre des repas avec chez l'un ou l'autre des membres d'une église dans laquelle je prêche. Et parmi les questions que je pose souvent, évidemment, c'est « qu'est-ce que vous faites comme métier ?» Et « vous avez combien d'enfants ?» Je serais fort perplexe si mes hôtes me répondaient « nous en avions quatre, mais l'un est mort, si bien que nous n'en avons plus que trois. » En effet, devant semblable réponse, je serais en droit de m'interroger sur la fiabilité, la maturité spirituelle de ses parents. En revanche, s'ils répondent, nous avons quatre enfants, l'un est auprès du Seigneur, et les trois autres sont encore avec nous, je peux dans ce cas être rassuré sur la réalité de la foi chrétienne de ce couple. Je peux être pratiquement certain que pour eux, la mort ne marque pas la fin de l'existence, mais qu'ils croient en la résurrection. Dans cette illustration, la différence révélatrice réside dans l'emploi du temps. Nous avions dans un cas et nous avons dans l'autre. Eh bien, dans l'argumentation de Jésus, la Bible dit à propos de Dieu, « Je suis le Dieu d'Abraham ». Alors que dans l'esprit tordu des Sadducéens, la Bible semblait dire « J'étais le Dieu d'Abraham ». La différence est énorme. Merci Seigneur de nous l'avoir fait remarquer. Ainsi, Jésus s'est servi de la parole de Dieu pour asseoir ses convictions. Et il était la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il était la source de la vérité. Mais il confondait tous ses détracteurs et tous ses adversaires avec la parole de Dieu. Parce qu'il était convaincu que la parole de Dieu avait la puissance d'accomplir quelque chose. Il était convaincu que c'était la vérité fondamentale à utiliser. Si la chose a échappé à l'un quelconque d'entre vous, permettez-moi de souligner que le Seigneur, de toute évidence, déjà reconnaissait le caractère historique de l'apparition de Dieu à Moïse dans le désert. Et je vous pose la question, vous croyez à cela? Vous croyez à ce que la Bible dit sur le plan historique ou pas? Y croyez-vous ou pas? Pour moi, c'est de l'histoire avec un grand H. L'autre histoire est écrite par des hommes et elle est susceptible de variations, et de variations parfois très dramatiques. Mais celle-ci ne change pas. Elle a été écrite par Dieu. De toute évidence, le Seigneur reconnaissait aussi que la révélation de Dieu s'est faite sous la forme de propositions et que chaque parole des affirmations bibliques demeure absolument précise et absolument digne de foi. Est-ce que vous le croyez aussi? Est-ce que vous croyez toutes les paroles que, quand Dieu dit « Je », voici parole du Seigneur, voici parole de l'Éternel, je le déclare, quand Jésus-Christ dit « Amen, Amen, en vérité, je vous le dis », est-ce que vous croyez foncièrement à ce qui vous est proposé? Dieu est le Dieu de vérité. Relevez aussi que la vérité doctrinale, ici, c'était celle de la vie après la mort, se fonde sur l'exactitude historique d'événements précis. Voyez-vous, pour moi, la Bible ne peut pas être inexacte en matière d'histoire et exacte en matière de doctrine. Il y a des théologiens étranges, pour moi, qui font une espèce de dichotomie, une espèce de distinction, là. Et ils disent, oh, il y a des erreurs sur le plan historique, il y a des erreurs sur le plan... Mais sur le plan doctrinal, ok, on accepte la doctrine. Non, le buisson ardent est un événement historique. Les anges existent. J'en ai jamais eu. Vous? J'ai vécu au pays des anges. Le saviez-vous? Algrange, Nilvange, Cérémange. En Lorraine, il y a toutes sortes, toute une kyrielle de villes dont le nom se termine par ange. Bon, ça n'a rien à voir avec les anges, d'ailleurs. C'est une transformation d'une forme alémanique, hein, de ing en ange. Mais les anges existent, même si nous ne les voyons pas. Et en revanche, alors là, attention, hein, n'adhérez pas aux fables médiévales, hein, que des enfants puissent devenir des angelots. Vous avez entendu ça? Il y a les fables du Moyen-Âge, où mais vous voyez ça sur les peintures, il y a des petits angelots. Ça n'existe pas. Parce que les anges ne procréent pas. Il n'y a pas d'angelots, et les enfants ne deviennent pas des anges. On souhaiterait qu'ils le soient ici. Là encore, comme les maris. Non, il y a toutes sortes de... groupe d'anges, hein, les chérubins, les séraphins, les archanges. Les anges sont des esprits créés par Dieu, des esprits d'une grande puissance, d'une grande intelligence. Je n'ai pas dit omniscient, hein, je n'ai pas dit qu'ils avaient toute l'intelligence. J'ai dit d'une grande intelligence. Et qui sont au service de Dieu et sont missionnés par Dieu au service des chrétiens. Ce sont souvent des anges qui sont venus aider les uns et les autres dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Alors, rien dans votre relation avec Dieu et avec les autres ne doit reposer sur du vent, sur des dogmes, même si ces dogmes ont été affirmés par des gens qui se prétendaient les vicaires de Christ sur terre. Quand bien même un très grand nombre de gens acceptent, adhèrent à de telles inepties, seule la parole de Dieu sert à réfuter les erreurs doctrinales. Seule la parole de Dieu sert à établir pour chaque génération, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, les vérités fondamentales qui doivent encadrer notre foi, ce que nous croyons, notre conduite, la manière dont nous nous comportons, et nos pratiques au sein de l'Église. Regardez dans les Épîtres, regardez dans les Actes des Apôtres, pour voir les pratiques de l'Église de Jésus-Christ. Sachez-le, les âmes vont être touchées, les âmes précieuses vont être touchées, mais ils ne vont être touchés que par la proclamation de la vérité, la proclamation de l'Évangile, la proclamation de la parole de Dieu, dite avec conviction, dite avec compassion, et avec amour par des serviteurs de Dieu comme vous, comme moi. En Matthieu 22, et je termine avec cela, regardez ce verset. En Matthieu 22, 33, que se passe-t-il? La foule qui écoutait, fut frappée de quoi? L'enseignement de Jésus. C'est l'enseignement de la parole de Dieu qui interpelle la foule. Ce n'est pas le charisme de Jésus. Il ne s'agit pas pour nous, chrétiens, d'impressionner les gens par notre éloquence, hein, par notre bagou, mais de les confondre et de les convaincre simplement en transmettant fidèlement les vérités de la parole de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Amen. Que le Seigneur vous aide à faire cela ici dans votre vie personnelle, dans votre famille, dans votre ville, là où vous travaillez, là où vous étudiez. Que Dieu vous aide à utiliser la parole de Dieu pour apporter le message que les gens ont besoin d'entendre. Si personne n'était venu apporter l'évangile, ma vie aurait été un gâchis, c'était un cauchemar. J'ai souvent dit, j'ai un cauchemar. Qu'est-ce qui se serait passé si jamais je n'avais entendu l'évangile? Alors je vois ma vie, hein, avec la carrière qui m'était destinée, j'aurais marié probablement ce type de femme, et j'aurais eu des enfants. Enfin, le Seigneur m'a béni, parce que la parole de Dieu était au cœur de ce que nous avons vécu, et je le remercie pour cela à tout jamais. Et je prie et je remercie Dieu pour l'Église qu'il a fondée ici à Amiens.